Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier.
Quand ?
Toujours la même heure.
88.8.
Je réécoute encore et encore.
Chouette.
Chouette. Le 13-30.
Nous sommes au Théâtre du Merlan, scène nationale du Théâtre du Merlan, et nous sommes en compagnie de Christophe April, qui est sociologue. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Si nous sommes avec vous aujourd'hui au Théâtre du Merlan, c'est parce que s'est organisée ici une rencontre qui a eu pour titre « La culture au sein d'un quartier populaire ». Et vous avez soulevé un certain nombre de... disons de paradoxe de cet intitulé « La culture au sein d'un quartier populaire ». Et vous avez proposé de rebaptiser un peu autrement. On aurait pu parler de « L'art au sein d'un quartier populaire » parce qu'effectivement, la scène nationale du Merlan, c'est d'abord, avant d'être un lieu de culture, un lieu d'art.
Oui, disons qu'en France, dans les politiques culturelles et chez les opérateurs culturels, il y a toujours cette... cet usage du mot culture qui recouvre en fait non pas la culture anthropologique, c'est-à-dire le langage, les modes de vie et l'art, mais qui désigne plus spécifiquement la notion d'œuvre et la notion de création artistique. Et donc la rencontre de ce soir intitulée Culture et quartier populaire a pu être intitulée plutôt Art et culture des quartiers populaires, ce qui est un peu différent.
Et du coup, ce qu'on a pu aussi entendre, dans les discussions qu'il y avait, car il y avait le Théâtre du Merlan, et puis il y avait beaucoup d'associations de ce quartier populaire ici, Malpassé, La Busserine, Saint-Barthélemy, beaucoup d'associations, des associations qui en fait semblaient demander au Théâtre du Merlan soyez un lieu de culture, quand le Théâtre du Merlan disait mais nous sommes un lieu d'art.
Oui, alors il y a peut-être deux choses qui ont été en... qui me semble marque la discussion de ce soir. La première chose, c'est qu'il y a tout ce passif qui, autour du Théâtre du Merlan, scène nationale, avec le quartier créatif grand Saint-Barthélemy qui a été annulé. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, tous les collectifs, les associations, les centres sociaux, dont certains représentants étaient là présents ce soir, ont en tête cette annulation et ce conflit. Mais la deuxième chose aussi qu'on a également entendue, c'est une chose très très belle, c'est que aussi bien ces responsables de structures, mais aussi de simples gens, de jeunes adultes qui participent par exemple ce soir à l'atelier cinéma, ont dit mais ce théâtre, on a eu du mal à y rentrer, on a eu du mal à y venir parce que les portes nous semblaient fermées, parce que ça semblait ne pas être pour nous. Enfin, une chose très très courante qu'on entend partout en France, clivage entre la culture des gens issus du milieu populaire et puis les institutions culturelles élitistes. Et puis en même temps, on a entendu ce soir, oui, mais ce théâtre, c'est aussi notre théâtre. On se sent aussi ici, quelque part, un peu chez nous. Parce que on y développe des activités, que ce soit le cinéma, et la création de Yann Gilg qui sera présentée ce vendredi est un bel exemple aussi, un processus qui associe des simples gens et qui fait qu'au bout de ce processus, il y a une présentation sur le plateau de la scène nationale. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on est sur des lignes de fracture aussi dans le vocabulaire utilisé. Dans ma présentation, par exemple, j'ai évoqué le Merlan comme étant une forteresse. Hein, une forteresse, je pensais, je ne l'ai pas dit, mais je pensais au désert des Tartares. Hein, de la forteresse du Merlan, on guette l'ennemi. L'ennemi, c'est les gens des quartiers populaires. Et puis, mais cet ennemi ne viendra jamais, il est déjà dans les murs, il est déjà là quelque part, il participe déjà à la vie du théâtre, il participe dans le dissensus, il participe dans le conflit, il participe dans le désaccord, mais il accompagne aussi cette institution. Et il me semble que dans le... aussi bien ce qui s'est passé il y a deux ans, en 2013, que ce qui va se passer avec la nouvelle directrice qui vient d'arriver, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que il y a eu des désaccords, il y a eu des divergences, mais il y a aussi des choses qui se font ensemble. Il y a un terreau aussi favorable à une action commune. On voit bien que cette institution, elle a une feuille de route, elle a un cahier des charges contraignant, mais qu'elle a aussi des marges de manœuvre, et elle l'a fait dans le passé, elle l'a fait, elle va le refaire dans l'avenir. Elle a aussi des marges de manœuvre pour accompagner une vitalité de ces quartiers dits populaires, des émergences d'initiatives diverses qui parfois peuvent aboutir à des projets artistiques, à des créations, et qui parfois peuvent aussi aller dans d'autres directions.
Mais j'avais le sentiment que finalement, on pourrait articuler autour de la notion de scène. Il y a le Théâtre du Merlan qui est une scène, d'art, qui est une scène d'artistes labellisés d'une certaine manière. Et puis il y a les habitants, les associations qui ont besoin d'une scène. Mais cette fois-ci, c'est sans doute pas tout à fait le même type de scène ou même type de label. C'est pas forcément la scène de l'excellence artistique, mais ce serait sans doute la scène de l'expression. Ce qu'on pourrait aussi appeler, mais de manière très noble, tout ce qui a à voir avec finalement les pratiques amateurs au sens de aimer, au sens de pratiquer. Pratiquer la danse, pratiquer le théâtre, mais pratiquer aussi l'agora. Et on a le sentiment que ce qu'était ou ce que demandent les habitants, c'est une scène. Et qu'ils trouvent là, dans la scène du Merlan, voilà un même mot, un mot en partage, mais deux pratiques différentes.
La vocation d'une scène nationale, effectivement, dans l'architecture et la structuration des politiques culturelles en France, c'est plutôt de favoriser, de soutenir et de diffuser la création artistique. Et donc de considérer que les gens qui rentrent dans un théâtre sont des spectateurs. Et c'est vrai que depuis 40 ans, il y a eu énormément d'investissements, et puis plus récemment, depuis une quinzaine d'années, sur cette figure du spectateur. Et puis, mais on a trop vite tendance à oublier que, parallèlement, il y a eu tout un courant, plusieurs courants d'éducation populaire qui ont misé sur les pratiques amateurs. Pratiquer de manière amateur la musique, la danse, le théâtre, mais même la poterie, la cuisine, c'est faire l'expérience des choses. C'est faire l'expérience sensible, c'est se mettre sensiblement dans des formes de réalité. C'est se lier, c'est communiquer avec d'autres, puisque dans ces pratiques, nous sommes rarement seuls. Donc c'est faire des choses avec d'autres, donc faire des choses en société. Ça ne veut pas dire qu'il y aura du lien social, ça c'est peut-être autre chose, mais c'est faire les choses avec d'autres. Et les autres sont toujours différents, il y a toujours de la différence, du conflit, mais aussi de la richesse. Dans cette fameuse notion de diversité culturelle qui est tant mise en avant, il y avait évidemment cette richesse, mais il y a aussi du conflit. Il y a aussi une difficulté à être avec l'autre. Donc ces pratiques amateurs, c'est vrai, elles permettent cela. Elles ne sont pas a priori les bienvenues sur le plateau d'une scène nationale.
Elles ne sont pas prioritaires.
Elles ne sont pas prioritaires. Et donc c'est bien ça, la problématique couvre, l'enjeu ou l'opportunité couvre la présentation du travail de Yann Gilg et des gens, des occasionnels de l'art qui ont participé, des amateurs, c'est que soudainement ce plateau devient un lieu d'expression. Alors, je disais en introduction, on est face à un quartier, à des quartiers dits populaires. On les qualifie, nous, urbanistes, géographes, sociologues, par un certain nombre d'indicateurs. Mais ce que l'on sait, pour aller très très vite, c'est que souvent, on a là des gens qui sont invisibles, qui ne sont pas visibles, qui n'ont pas la voix au chapitre, qui ne sont pas assis à la table de la République, qui n'ont pas la possibilité de contribuer par leur richesse et leur diversité à l'élaboration des choses et à la prise de décision. Et donc là, finalement, symboliquement, cette opportunité que ce travail de Yann Gilg soit présenté sur le plateau d'une scène nationale, c'est symboliquement rendre visible, alors sur les traces de nos pas, de ce spectacle, rendre visible des parcours migratoires, une histoire, des valeurs, des filiations, des relations ici à l'espace local, mais aussi à un autre pays, à d'autres aires culturelles. C'est ça qui est offert. Et ça, effectivement, il y a peut-être là une opportunité à saisir, c'est qu'à la fois on est dans une structure qui n'a pas la vocation à présenter ce travail, mais qui peut le faire.
Alors en même temps, c'est vrai qu'il y a, cet endroit d'expression ouvert par-delà en fait les quartiers, mais je sens aussi quelque chose de l'ordre de la possibilité d'une correspondance à l'intérieur même du quartier.
Et ce qui est posé comme enjeu là, et qui a été peut-être difficilement compris ou trop conflictuel au moment de Marseille 2013, c'est la nécessité qu'aujourd'hui doivent éprouver les opérateurs à travailler ensemble. Alors, nécessité ou injonction ? Les opérateurs culturels, on les soumet à l'injonction de faire du social. Et puis on demande la même chose aux opérateurs sociaux. Au-delà de ces injonctions, il y a aussi peut-être un vrai plaisir à faire des choses ensemble. Dans cette différence, dans cette richesse, il y a peut-être un vrai plaisir aussi et peut-être un vrai enjeu politique pour les années qui viennent à renouer avec certains principes de l'éducation populaire. Je disais tout à l'heure que la création artistique ne nous protège pas de la barbarie. C'est une chimère du XXe siècle, c'est une idée reçue qui n'a aucune valeur. Il n'y a aucun lien de causalité entre le développement artistique et le recul de la barbarie, comme l'a montré le XXe siècle. En revanche, ce que l'on sait, c'est que toute cette... cet aspect émancipateur, l'éveil des consciences, l'ouverture de la sensibilité, le respect de l'autre, le travail, l'interrogation sur les valeurs, passe par les pratiques, par la pratique amateur, par le faire ensemble, par l'expérience partagée. Ça peut être effectivement de l'art, de l'œuvre, de la construction d'une œuvre, mais aussi la construction d'autres choses, la discussion. Et ça, force est de constater que dans un territoire un peu particulier comme est la ville de Marseille, dans ces fameux quartiers nord, une structure comme le Merlan a un rôle à jouer.
En fait, en somme, l'expérience esthétique n'est pas, disons, quelque chose qui vient empêcher la barbarie. C'est plutôt de l'ordre de la construction de l'individu. Alors que la question de lutter ou de faire reculer la barbarie se fait dans les pratiques, parce que la pratique inclut l'autre.
Oui, enfin, certains philosophes présentent l'homme comme non pas étant comme un individu profondément socialisé. Nous n'existons, nous n'éprouvons un sentiment d'exister qu'en rapport à l'autre. Et ce depuis la naissance, bien sûr, mais ensuite, arrivé une fois adulte. Et par exemple, dans la construction d'un adolescent, la présence de l'autre est fondamentale. L'autre comme étant... celui qui édicte la loi qu'on a envie de transgresser, mais qui est là pour rappeler la loi, l'autre qui est là pour défendre des valeurs, alors que ces valeurs, on a envie de les envoyer valdinguer. Donc le rapport à l'autre est fondamental. Ce rapport à l'autre, il me semble, plus au cœur de la pratique que de la posture de spectateur.
Ce qui était particulièrement étonnant ce soir, c'est que l'ensemble de l'assistance se connaissait. On sentait qu'ils travaillaient ensemble, qu'il y avait différentes associations, différents collectifs qui se travaillaient ensemble, et qu'il y avait tout ce groupe-là face au Merlan, le Merlan seul. Ces collectifs commençaient à émerger quelque chose de l'ordre de « mais quels sont vos cahiers des charges au Merlan ?» Et nous aussi, on aimerait avoir un regard, et on voudrait questionner l'évaluation. C'est-à-dire de commencer à intervenir sur la question de la gouvernance. Nous aussi, on voudrait, d'une certaine manière, ça n'a pas été dit, mais c'est un peu ça qui s'est dit, on voudrait nous aussi gouverner avec vous ce lieu.
Je pense à Thomas Kirschbaum qui vient de publier un ouvrage récent sur la politique de la ville, où il dit une chose suivante. Il dit, depuis 40 ans, en fait, on est dans une espèce de simulacre où on essaye d'associer les gens, on dit qu'on associe les gens, mais en réalité, ils ne sont associés à pas grand-chose et à rien. Donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui, face à ces lignes de fracture entre l'institution du Merlan qui représente la culture élitiste, l'excellence artistique, et puis les quartiers dits populaires. Il y a une volonté en face dans les quartiers populaires de dire bah « bon, mais comment ça marche votre machin ? On y est entré, on apprécie ce que vous faites. » Puis il y a des choses qu'on n'apprécie pas, mais bon, ça c'est le jeu. Mais on aimerait bien aussi savoir comment ça marche. Et là, il y a des questions assez simples et qui sont finalement, que je trouve assez, entre guillemets, naturelles. Il y a évidemment la question toujours un peu qu'on qualifie de populiste. Combien ça coûte ? Combien ça coûte d'argent ? Mais qui est une question naturelle, puisqu'on est face à une institution publique qui est financée par de l'argent public, donc avec l'argent des citoyens. Donc le questionnement sur en quoi consiste votre cahier des charges me semble assez bienvenu, puisque finalement c'est le moyen de se rendre compte, pour des simples gens comme je suis, qu'une structure comme le Merlan, une institution, a un cahier des charges à la fois très contraignant, mais qui peut permettre des marges de liberté. Et ça peut devenir un objet de discussion. Et donc, comme vous le dites, un objet sur lequel on va réfléchir en termes de prise de décision, d'orientation d'une politique. Peut-être pas forcément de programmation, parce que là, on a une équipe très compétente, très rodée, qui travaille depuis longtemps. Les gens qui sont nommés à la tête de ces structures, là aussi, viennent, ont un parcours, etc. Mais pas tant la programmation, mais que peut-être l'accompagnement de cette programmation. Et donc là, il me semble que... Alors, ces questions très précises, par exemple sur le cahier des charges, sont délicates. On sent bien que la réception en face ne va pas de soi. Hein. Ça pose très simplement la question de la transparence et de l'opacité. Hein. J'évoquais aussi la charte de coopération culturelle à Lyon. Un des points d'achoppement au début, lorsqu'on a demandé à tous les opérateurs de travailler ensemble, les institutions prestigieuses et les simples centres culturels, c'était « mais quels sont vos financements ?» De combien sont vos subventions ? Et il y a eu des résistances des institutions pour rendre pour mettre sur la table de la discussion, pour dire, ben voilà, nous on fonctionne avec tant de budget par an. Et à un moment donné, il y a une espèce de stupeur. Mais une fois la stupeur passée, eh bien on apprend à se connaître et à faire des choses ensemble.
Cela n'est pas sans lien avec une question que vous aviez ouverte, qui était qui soigne qui ? Est-ce que c'est le Merlan comme forteresse qui vient faire ce travail, je reprends vos attributions, l'évangélisation culturelle, ou est-ce que c'est les habitants, les voisins, qui est le terme proposé par la nouvelle directrice du théâtre du Merlan, ou est-ce que ce sont les voisins qui viennent d'une certaine manière, par leur envie de participer à la gouvernance, soigner l'institution ?
Traditionnellement, ça se faisait dans un sens. Hein. Il y avait ce principe d'évangélisation qui a été amené par les sociologues de la culture, de prosélytisme forcé. Hein. C'était et on voit bien peut-être que dans l'histoire du Merlan, il y avait cette option-là qui avait été choisie. On implante un théâtre, une institution culturelle dédiée à la création pour convertir les simples gens.
Malraux.
Voilà. Et on voit bien que là les temps ont changé, hein, depuis 20 ans tout ça marche difficilement, et donc je pense qu'aujourd'hui il y a une espèce de prise de conscience qui est plus ou moins partagée que cette notion de soin se fait dans les deux sens, qu'effectivement les gens l'ont très bien dit, ici le théâtre il est ouvert, il est chauffé, il est accueillant, il y a des choses qui s'y passent, il y a des moyens, donc c'est important, les gens ont du mal à y rentrer, mais une fois qu'ils y sont, ils s'y sentent bien. Et donc il y a cette fonction de soin, il y a cette idée d'être accueilli, d'être accompagné, donc de pouvoir donner, que le théâtre puisse être une chambre d'écho à des questionnements qui viennent du quartier. Et puis, dans l'autre sens également, ces gens qui rentrent au théâtre, ces gens qui interrogent la structure depuis l'extérieur, ils peuvent amener l'institution, c'est-à-dire l'équipe, la direction, mais l'équipe aussi, chacun à son niveau, à se questionner, à envisager les choses autrement, à discuter autrement, à ouvrir les portes d'une autre manière. Donc je pense que le soin et la nécessité de ce soin est aujourd'hui réciproque, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation pyramidale, même si les représentations encore nous le font voir parfois comme ça.
En somme, un théâtre n'a plus affaire à uniquement des spectateurs. Il a affaire à autre chose que des spectateurs qui viennent voir un spectacle.
Alors oui, même bien sûr chez les spectateurs, il y a ces travaux sur la figure du spectateur, hein, où on éprouve aussi sensiblement, on réagit, on travaille. Être spectateur, ce n'est pas être que passif. Mais au-delà de cette acception de la figure du spectateur, il y a aussi cette idée que, comme autour d'une institution comme le Merlan, ici dans ces quartiers, il y a peu de structures intermédiaires, justement pour accueillir des pratiques amateurs. Il y en a quelques-unes, hein. La Busserie, le Centre Social de l'Agora, etc. On n'est pas non plus dans un désert culturel, contrairement à ce qu'on entend souvent en dehors de Marseille. Hein. Les quartiers nord sont mieux lotis que les quartiers est, par exemple. Mais il y a quand même un déficit de structures intermédiaires. Et puis en même temps, le Merlan est là, il y a une bibliothèque, il y a quand même ces quelques structures intermédiaires. Donc on sent bien que les spectateurs viennent et ont envie que cette vie, cette ouverture sur le monde, cette ouverture sur l'autre, cet espace de dissensus continue à exister. Peut-être au-delà des spectacles, au-delà du travail de création.
Je disais cela parce qu'il y a le Théâtre du Merlan qui a affaire avec des spectateurs lorsqu'il programme un spectacle, mais le Théâtre du Merlan qui a affaire avec des amateurs, comme c'était le cas ce soir, et le Théâtre du Merlan qui a affaire avec des citoyens, lorsqu'ils demandent la question de la gouvernance. On peut être une fois spectateur, une fois amateur et une fois citoyen. Aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression qu'un théâtre a affaire à la fois tantôt avec le citoyen, tantôt avec l'amateur, tantôt avec le spectateur.
Oui, tout à fait. Et c'est peut-être un peu là la difficulté de l'institution, c'est-à-dire qu'elle se retrouve confrontée en fait à une demande sociale, une demande de simples gens, de citoyens, qui outrepasse son cahier des charges, qui outrepasse sa mission. C'est-à-dire qu'une institution comme le Merlan ne peut pas non plus faire du social, ne peut pas sauver le monde, ne peut pas se préoccuper des questions de formation, d'emploi, d'éducation, de réussite scolaire et d'échec scolaire. Ça outrepasse ses compétences et son rayonnement et ses moyens. En revanche, on sent bien que dans la demande sociale, il y a une volonté d'être accompagné, il y a une volonté d'accompagner. On sent bien certains analystes parlent de période pré-révolutionnaire. On est entré dans une période quand même très 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 particulière, très chaotique, peut-être pré-révolutionnaire, où l'organisation pyramidale ne tient plus. C'est-à-dire que les citoyens, effectivement, les simples gens, moi j'aime bien parler des gens, parce que ça, dans les gens, on peut être citoyen, adolescent, adulte, vieux, jeune, ça remet un peu de, peut-être d'existence et de simplicité. Mais cette dimension de participation citoyenne, elle est là, elle est omniprésente. Et effectivement, comme vous dites, elle va se concentrer sur... pas simplement sur une participation aux créations, pas simplement sur une participation aux ateliers de pratique amateur, mais aussi sur une participation à comment se décident les choses, comment sont prises les décisions, comment ça fonctionne, qui décide de quoi. Question qui avait été très posée de manière très, très simple et peu entendue au moment de Marseille 2013.
Revenons un moment sur Malraux, parce que si effectivement Malraux a été celui, disons, qui a mis en place ces forteresses, pour reprendre votre langage, il a été aussi celui qui a pensé ces fameuses maisons de la culture. Et avec elle aussi, je pense au MJC, aux Maisons de la Jeunesse et de la Culture, qui remplissait un rôle très intéressant à cheval entre la question des exigences artistiques et la question de l'accompagnement des pratiques amateurs. Ces Maisons de la Culture, ces maisons de MJC, les Maisons de la Jeunesse et de la Culture, qui ont quasiment disparu aujourd'hui. Et quand on regarde ce qui s'est fait à Lille, par exemple, lors de leur expérience de la capitale culturelle, ces maisons folies qu'ils ont montées quartier par quartier ressemblaient. Elles semblent avoir quelque chose à faire avec cette histoire de Malraux, cette histoire des maisons des jeunes et de la culture, c'est-à-dire à la fois un centre social, à la fois un centre de pratique amateur et à la fois un centre de création artistique, reprenant en compte les exigences culturelles. Cela vous parle, ça, ces maisons folies à Lille ?
Oui. Ce qui me semble remarquable en France, c'est que, en fait, depuis Malraux, en un peu plus d'un demi-siècle, on s'est efforcé de construire des sanctuaires pour protéger la création artistique et le travail des artistes. Hein, donc c'est les trois piliers, hein, le soutien à la création, la démocratisation culturelle, qui est plutôt en relation aux gens, au public, et puis le soutien à la professionnalisation des artistes. Et c'est vrai que le travail des artistes, le travail de création, nécessite un peu une protection, des conditions particulières, on est bien d'accord là-dessus. Hein, c'est un travail d'élaboration, ça demande du temps, ça demande des structures, ça demande peut-être des formes de sanctuaires. Ça, c'est un fait. Mais en revanche, j'ai l'impression que dans les discours et dans les faits, cette sanctuarisation a eu pour conséquence de dévaloriser... Le travail qui n'est pas dédié à la création. Et c'est-à-dire que les artistes s'appuient aujourd'hui, on leur demande de s'appuyer sur les dimensions sociales de l'existence des simples gens, mais parce que dans la dimension sociale, dans la culture au sens anthropologique, on trouve les gisements de la création artistique. Et dans les dimensions sociales de la vie au quotidien se trouve aussi un besoin de renouer avec des pratiques artistiques, mais qui ne sont pas de la création. Et c'est là où on retrouve le fameux chaînon manquant entre Malraux et aujourd'hui, que constituaient les MJC, les pratiques amateurs, mais qui ne sont pas des pratiques de création. Chanter, participer à une chorale, c'est peut-être parfois accéder à de la création, mais pas systématiquement. Et là, on a quand même en France tout un tissu d'amateurs. Olivier Donat, en 96, avait publié son enquête sur les pratiques culturelles françaises, et il avait donné ce terme, les amateurs. On a eu une montée en régime, après la notion de spectacle de Guy Debord, on a eu une montée en régime de la culture des amateurs en France. Et il y a ce hiatus, il y a ce fossé abyssal aujourd'hui entre la culture des amateurs et de ceux qui les accompagnent, qui est souvent référencé au socio-cu, hein, avec tout ce que ça comporte en forme de stigmatisation, de dévaluation. Et puis d'un autre côté, la culture des créateurs, des artistes, qui est rattaché au paradigme de la création artistique. Et donc, inévitablement, une structure comme Merlan, vous voyez, on a un fossé qui est redoublé. On est entouré de quartiers populaires, mais on est aussi dans ce prolongement des politiques culturelles qui a instauré ce clivage et ce fossé. Et donc là aussi, c'est vrai qu'une institution comme le Merlan ne peut pas, à elle seule, résoudre, le combler. Donc quand je parle d'accompagnement, c'est vrai qu'il y a vraiment un travail commun, il y a une co-construction. Donc on est au cœur d'enjeux un peu très, très, très dans l'air du temps, hein, de, Comment est-ce qu'on se met à travailler ensemble? Comment est-ce qu'on essaie d'affûter des discours et des concepts que l'on peut partager? Comment est-ce que l'on travaille sur les valeurs ensemble? Et on voit bien que les valeurs d'une institution scène nationale ne sont pas celles du centre social de l'Agora. Hein,
c'est... Alors, depuis tout à l'heure, nous parlons des voisins du Théâtre du Merlan. Nous situons là le Théâtre du Merlan sur ces quartiers, Grand Barthélemy, Saint-Barthélemy, Malpassé, La Busserine. Mais la nouvelle directrice du Théâtre du Merlan dit « Mais le Théâtre du Merlan est à Marseille. » Et c'était un théâtre national de Marseille. Et pourtant, on s'interroge ici la culture au sein d'un quartier populaire. Il n'y a pas que des quartiers populaires à Marseille, quoique Marseille serait sans doute une série de quartiers populaires. Mais voilà, est-ce que le théâtre du Merlan est la scène nationale de Marseille ou est-ce qu'elle est la scène nationale de ces quartiers de proximité?
Alors je pense oui qu'effectivement la directrice peut avoir cette conception-là parce que c'est la conception un peu officielle d'une scène nationale, hein, effectivement, qui porte les valeurs et les moyens et l'ambition d'une politique culturelle nationale. Et donc à ce titre-là, elle parle de Marseille, hein, et pas des quartiers qui l'entourent. Pour ma part, il me semble que c'est une manière peut-être qu'il y a une autre manière de voir les choses. Moi, je considère que Marseille est une ville très particulière qu'on ne peut pas comparer ni à Strasbourg, ni à Lille, ni à Nantes, ni aux autres métropoles régionales en France. C'est-à-dire que Marseille fonctionne différemment. Pour une raison assez simple, c'est qu'on a un hypercentre assez ramassé qui va de Castellane au Vieux-Port, à 5 Avenue, à la gare Saint-Charles.
Et c'est tout petit. Hein.
Tout petit. Voilà, la ville, elle est là. La ville au sens urbanistique et géographique du terme. Ça veut dire quoi? Avec des fortes densités, avec un habitat relativement homogène, avec des services très très diversifiés, qui vont de l'accordeur de piano au traiteur libanais, hein, qui concentre un grand nombre de services, aussi bien éducatifs, sanitaires, culturels, d'entreprises privées, etc. Et puis dès qu'on sort de ce petit périmètre, on rentre dans ce que j'appelle la ville-banlieue, enfin dans ce que d'autres appellent la ville-banlieue. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans des quartiers de banlieue. Et qu'est-ce qui caractérise la banlieue d'un point de vue géographique? Là, quand on essaie d'objectiver cette notion, ce sont des densités de population plus faibles. C'est une fragmentation d'espace parce qu'il y a des rocades autoroutières, il y a des voies de chemin de fer, il y a des espaces où le piéton est malvenu, qui sont à l'échelle de la voiture.
Il y a
des zones industrielles, il y a des friches industrielles, il y a une hétérogénéité de l'habitat qui associe grands ensembles, ensembles collectifs plutôt des années 60-70, plus anciens, de l'habitat pavillonnaire. Il y a des zones résiduelles, des dents creuses, des espaces verts. À Marseille, on est truffé. Hein. Il y a une homogénéité des services, hein, une faible diversification des services. Voilà ce qui caractérise la banlieue. Et la banlieue, c'est aussi un espace où on ne va pas se promener. Hein, en France, on ne se promène pas en banlieue. On va se promener dans les centres des villes. Et Marseille, par excellence, dès que vous sortez de cette personne, voilà. Donc, le Merlan est situé dans la ville banlieue. Le Merlan est dans la banlieue de Marseille.
La spécificité là, de Marseille, c'est que la banlieue est à l'intérieur de la ville.
Absolument. C'est-à-dire que si on prend la définition administrative d'une ville, Marseille n'a pas de banlieue, puisque tout ça, c'est la municipalité de Marseille. Mais ça, c'est une définition administrative. Si on prend une définition de l'espace vécu, elle rejoint plus ce que je viens de décrire.
Donc, par exemple, dire le Théâtre du Merlan et la scène nationale de Marseille, c'est comme si il y aurait une scène nationale à Vaux-en-Velin et qu'on dirait la scène nationale de Vaux-en-Velin et la scène nationale de Lyon.
Voilà. Voilà. C'est comme si on disait que la scène nationale qui à un moment donné était à Rieux-la-Pape et la scène nationale de Lyon. Alors c'est vrai que vu d'en haut, lorsqu'on regarde la carte de France, on va dire que c'est pas à Rieux-la-Pape mais à Lyon. Et à Marseille, effectivement, vu d'en haut, c'est la scène nationale de Marseille, on est bien d'accord. Mais c'est une vision d'en haut surplombante, qui est une vision finalement un peu technocratique. Maintenant, si on se place à l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle de la personne, des simples gens que nous sommes, on est plus dans une scène nationale de ville-banlieue.
Toute la difficulté de ce titre, la culture au sein d'un quartier populaire, dans une scène nationale qui se projette à l'échelle d'une ville. Mais en même temps, Marseille, je le disais tout à l'heure, c'est que des quartiers populaires, les uns à côté des autres, d'une certaine manière, en dehors de cet hyper-centre. Donc, on pourrait aussi dire, finalement, Merlan est la scène nationale de Marseille. Oui. Excepté l'hypercentre, oui. Peut-être.
Mais avec quand même des... C'était soulevé dans la discussion, des choses très, très étranges qui se passent à Marseille. Prenez cet exemple des navettes qui montent du centre-ville, qui permettent d'amener des spectateurs du centre-ville. Alors le centre-ville n'est pas que bourgeois, il est très mixte socialement, hein, notamment le premier arrondissement. Mais qui permettent quand même à des habitants résidents dans le centre de la ville de monter en navette. Parce que ce qui caractérise la ville-banlieue, c'est que c'est très mal desservi en transport en commun. Et ça, toutes les banlieues en France se caractérisent par une faible difficulté à circuler. Donc, mais ce qui était très étrange, c'est qu'une habitante le disait, elle disait « Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des navettes pour nous, pour aller voir des spectacles dans l'hypercentre de Marseille, à l'Opéra par exemple, mais, ou au Théâtre de la Criée ?» Et voilà ce que met en évidence cette relation entre l'hypercentre et la banlieue. C'est-à-dire que, et ce que met en évidence ces relations dissymétriques entre une institution et une population, un public choyé, qui est celui du centre-ville, qui compose l'essentiel du public du Merlan, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir sur une enquête de 2014. Il faudra vérifier sur d'autres spectacles et sur le plus long terme. Voilà par exemple des points d'achoppement qui génèrent des formes d'animosité et de critique sociale qui sont justifiées, puisque cette dissymétrie n'est pas acceptable.
Et on pourrait parler aussi de navettes qui permettraient à des habitants, je ne sais pas, de Saint-Antoine, par exemple, de pouvoir venir au Théâtre du Merlan, ou des habitants de la Cailliole, absolument, de pouvoir venir au Théâtre du Merlan.
Absolument. Absolument, parce qu'on a un réservoir de population et de gens qui... Parce que ce Théâtre National est le théâtre avancé aux avant-postes des quartiers nord, et que les quartiers nord, ce n'est pas simplement les quelques quartiers qui entourent le Merlan, c'est aussi d'autres quartiers. Et effectivement, et c'est bien là ce qui caractérise la ville-banlieue. C'est que voyager en banlieue est une chose complexe si on ne dispose pas d'un moyen de locomotion individuel.
Merci beaucoup, Christophe April, pour
merci
cet entretien. Je rappelle que vous êtes sociologue, et donc c'est une discussion qui fait suite à une discussion qui a eu lieu ici au Théâtre du Merlan, la culture au sein d'un quartier populaire. Une discussion qui n'est pas sans lien avec le spectacle
Sur les traces de nos pas.
Sur les traces de nos pas, effectivement, de
Yann Guild.
Yann Guild. Et un spectacle de ce qu'on pourrait appeler de création partagée, avec justement les habitants, des voisins, hein, du Théâtre du Merlan. Merci beaucoup, Christophe Patrick.
Merci.
Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier.
Quand ?
Toujours à la même heure.
88.8.
Je réécoute encore et encore.
Chouette.
Chouette. Le 13-30.
Et en podcast sur radiogrenouille.com.